Le chat était reclus dans le palais de Niavarande. On avait l'impression qu'il n'en sortirait plus que les pieds devant. Le gouvernement militaire était bien évidemment incapable de réformer le pays et les administrations étaient toujours paralysées par les grèves. Malgré le couvre-feu et l'interdiction des manifestations, l'opposition continuait à s'organiser. Le rôle du clergé, en Iran comme en exil, devenait de plus en plus prépondérant. Le calendrier religieux n'aidait pas. Décembre correspondait au mois de Muharram. La célébration du martyre de l'imam Hossein promettait de donner lieu à des manifestations massives. Une fois de plus, c'est le Shah lui-même qui précipita sa chute. Face à la pression des clercs, il autorisa les marches religieuses pacifiques du 10 Muharram, Ashura. Des millions de personnes défilèrent dans tout le pays. Téhéran était prise par la foule. Étrangement, il n'y eut pas d'incident notoire. On sentait que l'opposition avait atteint une telle masse, une telle puissance que la violence était dorénavant inutile. L'avenue Reza Shah était un grand fleuve humain qui se jetait dans la place Chariod, devenu un lac frémissant que surplombait, comme un rocher, le monument à la royauté dont on sentait qu'il changeait de sens. Il devenait un monument à la révolution, à la liberté et à la puissance du peuple. Je pense que tous les étrangers présents à Téhéran ces jours-là se rappellent l'impression de force extraordinaire qui émanait de cette foule. Au nom de l'imam Hossein abandonné par les siens, au nom de la justice face à la tyrannie, l'Iran était debout. Nous avons tous su ce jour-là que le régime allait tomber. Nous avons tous cru ce jour-là que l'ère de la démocratie commençait. En France, Frédéric Lyautey, avec sa folle détermination, avait proposé ses services à Khomeini, à Neuf-le-Château, comme interprète. Il fut pendant quelques semaines un des nombreux secrétaires de l'imam. Il répondait pour lui aux courriers des admirateurs français. L'entourage du religieux se méfiait de lui, on pensait qu'il était un espion, ce qui le faisait terriblement souffrir. Il me téléphonait souvent, avec un ton très amical, commentait les dernières nouvelles de la Révolution, me disait la chance que j'avais d'être sur place pendant ces moments historiques. Il ignorait apparemment mes manigances pour le faire expulser et ma passion pour Azra. Elle ne lui avait rien raconté. De fait, c'est lui qui la poussa à revenir vers moi. Le père d'Azra fut arrêté à son domicile le 12 décembre et envoyé dans un lieu tenu secret, vraisemblablement à la prison d'Evin. On n'arrêtait pourtant presque plus personne à cette période. Le Shah cherchait à négocier avec l'opposition pour en finir avec le gouvernement militaire et, dans une dernière volonté de réforme, convoquer par la suite des élections libres. L'arrestation du père d'Azra, simple enseignant dans un lycée et récent militant du parti Toudé, était un mystère. La révolution paraissait inéluctable. Mais la machine répressive continuait bizarrement à tourner dans l'ombre d'une façon absurde. Personne ne comprenait pourquoi cet homme avait été raflé, alors que la veille ou l'avant-veille, des millions d'autres criaient mort au chat ouvertement dans la rue. Le 14 décembre, il y eut une contre-manifestation en faveur du régime. Quelques milliers de nervis et de soldats en civil défilèrent à leur tour en brandissant des portraits des Pahlavis. Nous ne pouvions évidemment pas prévoir les événements, pas deviner qu'un mois plus tard, le Shah serait contraint à quitter le pays. L'angoisse de la famille d'Azra était d'autant plus forte que la confusion et l'énergie révolutionnaire étaient au plus haut. C'est Lyautey qui, par téléphone, convainquit Azra de la nécessité de me contacter. Elle m'appela peu avant Noël. Je n'avais pas envie de rentrer en France pour les fêtes. Croyez-le ou non, je ne voulais pas m'éloigner d'elle. J'allais enfin la revoir. En un mois et demi, ma passion n'avait fait que croître. Je me haïssais et je désirais Azra m'en taper la tête contre les murs.